En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc nous plaçons le corps en méditation. Rappelez-vous toujours la colonne vertébrale la plus droite possible. Avec la tête, vous pensez que vous poussez le plafond, ce qui va maintenir la colonne vertébrale droite. Au niveau de l'esprit, pour la méditation, il n'y a pas à s'attendre à quelque chose de spécial. On va s'efforcer d'être conscient de ce qui se passe, de ce qui apparaît, de ce qui s'élève dans notre esprit. De ne pas rejeter ce qui nous apparaît comme désagréable, mais de ne pas se laisser distraire par ce qui nous est agréable. Et s'efforcer de laisser passer ce qui s'élève, les pensées, les sensations et les perceptions. Mais sans tension dans l'esprit. Pour être sûr de ne pas être distrait par ces phénomènes, pour les personnes qui méditent depuis peu de temps, placez votre esprit sur la respiration. Vous êtes conscient que vous inspirez, conscient que vous expirez, et efforcez-vous de ne pas perdre conscience de ce support tout en étant conscient des pensées, des perceptions et des sensations. Pour les personnes qui ont l'habitude de méditer depuis quelques années, quand l'esprit est clair, mais détendu en même temps, essayez de, non pas d'analyser la nature des phénomènes, mais de reconnaître. C'est juste un état de reconnaissance de la nature de ces phénomènes qui apparaissent. Ils sont impermanents. Ils sont dépendants de causes et conditions, donc ils n'ont aucune existence par eux-mêmes. Et si on les saisit, dukkha apparaît immédiatement. Avant de poursuivre l'enseignement, est-ce que vous avez des questions ou des points à éclaircir par rapport à votre pratique de la méditation ?
Vous avez dit la dernière fois qu'en pratique, vous conseillez d'avoir les yeux à demi ouverts. Pour quelle raison?
Parce que, premièrement, de fermer les yeux, ça favorise la torpeur, l'assoupissement. Et puis, deuxièmement, parce que pour la pratique qui suit la pratique du calme mental qu'on appelle en tibétain chiné, c'est-à-dire l'aktong, la vision pénétrante, il faut absolument avoir les yeux ouverts et à l'horizontale. Donc, si on s'est habitué à fermer les yeux pendant 2-3 ans, ça va être difficile après de méditer les yeux ouverts. Et puis, c'est pour aussi signifier que la méditation, ce n'est pas limité à la pratique assise, mais que lorsque nous sommes dans l'activité, eh bien, nous pouvons aussi méditer, et forcément, là, les yeux ouverts. Donc, faut pas associer méditer à les yeux fermés.
À immobilité.
Ou immobilité, ouais. Pas de point à revoir, pas de difficulté, tout se déroule bien. Bon, alors c'est parfait. Comment ?
Ou alors que des difficultés.
Eh bien, alors allez-y, s'il n'y a que ça.
Je peux dire quelque chose, mais je ne sais pas tellement si après mon conseil peut m'aider, parce que c'est surtout une question pratique. Uh-huh. C'est la mise en condition dans la vie quotidienne, parce que c'est ça qui m'intéresse.
D'accord. Ouais.
Maintenant, je ne fais pas que m'asseoir. Mmh. Et donc, j'ai décidé de prendre certains repères. Pas forcément dans le temps, mais dans les tâches que j'ai à accomplir pour effectuer des méditations dans la vie quotidienne, notamment mm-hmm. sur certaines tâches quand je marche, mm-hmm. c'est pas plus facile, mais c'est pas facile du tout, quand je mange, mm-hmm. et quand j'effectue certaines tâches comme la cuisine ou certaines tâches du ménage, etc. Mm-hmm. Et je m'aperçois que c'est très très dur dans le temps de maintenir. Voilà.
Mais c'est une très bonne expérience.
Voilà.
De s'en apercevoir.
Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, je sens que mon esprit se rebiffe, prêt à exploser parce que ça dure trop longtemps.
Bon.
Et ouais. Je me souviens qu'une fois, vous aviez dit si c'est le cas, faites 10 minutes, puis cherchez à changer. La tâche, est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes plus, on va dire, plus mentales ou spirituelles pour conserver quand même cet état de méditation plus longtemps dans ma journée, à part la pratique?
Alors, en général, quand l'esprit se revive, c'est qu'il y a de la tension, trop de tension. Et il faut absolument relâcher cette tension. On ne peut pas méditer l'esprit tendu. Ça, c'est clair. C'est l'esprit tendu qui prendra le dessus et vous en verrez tout balader. C'est le symptôme cocotte minute, hein, et on explose, quoi. Donc, ça ne sert absolument à rien de continuer de méditer alors que l'esprit est en état d'overdose, quoi. Bien. Alors, ça, ça veut dire qu'il faut détendre. En même temps, on peut détendre et maintenir une certaine attention à ce qui se passe. C'est délicat au début, mais bon, vous pratiquez depuis quelques années déjà, donc ça devrait quand même être plus facile. Cette attention qu'on établit dans l'esprit, je prends toujours cet exemple, mais c'est l'attention qu'on établit dès qu'on est au volant de sa voiture. Et pas plus. On sait ce qui se passe, mais pas une concentration ou une attention à ce que l'on est en train de faire. C'est aussi une attention à ce qui se passe dans l'esprit par rapport à ce que l'on est en train de faire. Ce que ça fait naître comme phénomène dans l'esprit, le fait d'être dans telle ou telle activité, dans telle circonstance, d'être en contact avec telle personne, d'avoir telle ou telle sensation. Il fait chaud, il fait froid, etc. C'est agréable, c'est désagréable, bien. Ça, on en est conscient, mais en même temps, il faut être conscient de ce que ces phénomènes-là font apparaître comme état intérieur dans l'esprit. Et ça, c'est très important. Et là, il n'y a pas besoin d'être fixé durement pour cette observation. C'est même pas une observation, c'est un état de connaissance. On sait. Le Bouddha utilisait cette expression, c'est ce qui sait. Sinon, on est dans l'ignorance, dans l'opacité. Et ça, c'est à établir, oui, mais sans tension. Et si vous avez cet aspect-là dans l'esprit, dites-vous que vous êtes en train de pratiquer. Voilà. C'est le propre de Shiné, ça. Lorsque cet état s'installe naturellement dans l'esprit, quoi que vous fassiez, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, eh bien, s'il y a cette conscience de ce qui est présent dans l'esprit, vous êtes en train de faire chiner. Et ce n'est pas plus que ça. Donc c'est très, c'est une attention, mais c'est très soft en même temps, quoi.
C'est plutôt un équilibre subtil, quand même.
Oui, c'est sûr. Oui, parce que cet équilibre-là, aujourd'hui, qui va vous permettre d'être conscient de ce qui se passe, demain, le curseur va bouger de place, quoi. Et pas besoin de savoir pourquoi ça bouge de place. Et il faut simplement savoir que, puisque ça bouge de place, eh bien, il faut que je rétablisse l'équilibre. Et c'est ça, véritablement, la méditation. Ça demande un repositionnement, mais constant, quoi. Mais ça doit se faire dans la détente. Mais ça doit se faire en pleine conscience et dans la détente. C'est ce que voulait dire Rinpoche quand il disait « just relax ». Seulement, il ne le dit plus. Parce qu'on oublie l'aspect conscience là-dedans. Et on voit juste le « relax ». Autre chose ? Sur la pratique, c'est bon ? Là, on vient de voir en fait ce qu'est la méditation. Il faut absolument que la méditation, elle permette ça. Donc ça, c'est à chacun de voir, eh bien, si la pratique que vous êtes en train de faire, le moyen que vous êtes en train d'utiliser pour votre pratique, permet cette attention à ce qui se passe. Si ça le permet, cette pratique est totalement appropriée. Si elle ne le permet pas, peut-être qu'il faut changer de pratique et trouver une autre façon de pratiquer qui va vous permettre cela. Mais il faut arriver à cela. Alors, que dire Rinpoche sur la troisième noble vérité, puisque nous sommes, je le rappelle, dans cet ouvrage de Rinpoche En route vers l'éveil, qui est toute une suite d'enseignements qu'il a donné à Hambourg en 96, je crois, et qui parle des points essentiels des trois véhicules. Donc le Shravakayana, le Mahayana, le grand véhicule, et puis le Vajrayana, la voie des tantras. Dans le Shravakayana, est-ce que ces termes pour vous, madame, c'est clair ou est-ce que vous souhaitez que je reprécise le sens de ces termes? Ah non, non, vous pouvez me déranger, je suis là pour ça. C'est bien, c'est très bien. Shravakayana, c'est la forme du bouddhisme qu'on retrouve en Thaïlande, au Cambodge, au Sri Lanka, Birmanie, au Laos, ils mettent beaucoup l'accent sur le premier enseignement que le Bouddha a donné après son éveil, qu'on appelle les quatre nobles vérités, et qui forment le fondement de la doctrine bouddhiste. Ensuite, ce qu'il a enseigné, ce sont des développements de certains aspects de ces quatre nobles vérités. Il ne faut pas penser que ces quatre nobles vérités ne sont développées que dans le Shravakayana. Elles sont développées au Japon, dans le bouddhisme zen, elles sont développées et elles doivent être développées aussi dans le bouddhisme tibétain, le Vajrayana. Je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment, mais j'aime bien Rinpoche, il reprécise dans cet ouvrage que toutes les pratiques, quoi que l'on fasse, c'est en rapport avec ces quatre nobles vérités. Donc pour nous, c'est fondamental, essentiel, primordial de connaître à fond ces quatre nobles vérités, de les comprendre et de voir comment on réagit, ce qu'elles font résonner en nous pour se dire « Ah non, entrez, Patrick, il y a de la place. » Il y a de la place ici, Patrick. Juste là, il y a un tapis. Voilà. Très bien. Bonsoir. Il y a quelqu'un encore derrière vous? Non? D'accord. Et Oui, c'est primordial de comprendre ces quatre nobles vérités parce que ça détermine la voie dans laquelle nous avons choisi d'être. Et il y a trop de personnes qui pratiquent le dharma sans savoir pourquoi elles pratiquent le dharma. Et elles imaginent que par telle ou telle pratique, par le fait de réciter des mantras ou de faire telle ou telle pratique, eh bien, il va y avoir une transformation de l'esprit qui va se faire comme ça, comme par coup de baguette magique. N'y croyez pas trop quand même. Soyez clair avec ces quatre nobles vérités. La première, je la rappelle, nous rencontrons dukkha à longueur de journée. Dukkha, on traduit dukkha par souffrance, mais élargissez le sens de dukkha par contrariété, par insatisfaction. Il n'y a pas que la souffrance de la maladie, la souffrance de la vieillesse, de la naissance et de la mort. Il y a la moindre contrariété. Et nous rencontrons, le Bouddha disait que nous rencontrons dukkha à longueur de journée, que dukkha est omniprésente dans notre quotidien. Et on est obligé de constater que depuis ce matin, nous avons rencontré dukkha. Et que ce n'est pas une de temps en temps, mais qu'on le rencontre mais à longueur de journée. Et si nous n'en sommes pas convaincus et vraiment sûrs de cela, mais il faut observer notre façon de vivre et voir si, depuis ce matin, nous avons été épargnés par la rencontre avec Dukkha. Et observer, de façon à donner une réponse mais claire et qui se base sur cette observation, sur cette expérience de Dukkha. Et puis demain, observez encore et vous verrez que tous les jours, on rencontre Dukkha. Bon, ça, c'est la première des quatre nobles vérités. La deuxième, il faut chercher l'origine. Quand on constate qu'il y a Dukkha, il faut savoir d'où provient Dukkha. Parce que si nous voulons nous en libérer, il faut connaître l'origine. Sinon, on va utiliser des moyens qui ne seront pas appropriés pour la libération. Ça sera une perte de temps, une perte d'énergie et surtout une perte de résultats, quoi. Et on peut le dire comme ça. On est dans une société en Occident où tout est basé sur le résultat. Mais faisons que notre pratique, eh bien, donne pour résultat la libération de dukkha. Mais pour cela, il faut encore en connaître l'origine. Rinpoche explique, en reprenant bien sûr les enseignements du Bouddha, qu'il y a deux points principaux qui sont à l'origine de dukkha. C'est le karma, la loi de causalité, et les facteurs perturbateurs, la colère, la jalousie, l'orgueil, le désir, l'attachement, l'indifférence. Et tant d'autres. Nous ne sommes pas convaincus à 100% que le karma est cause de dukkha. Nous ne sommes pas convaincus que tous les facteurs perturbateurs sont cause de dukkha, et pour soi et pour autrui. Et ça a été le thème du mois dernier, en précisant que ces voiles que sont les facteurs perturbateurs et le voile du karma, et vous rajoutez les deux autres voiles, le voile de la dualité et le voile des tendances, ces voiles se basent, se souchent sur ce qu'on appelle l'ignorance fondamentale. Cette ignorance fondamentale, c'est vraiment la cause principale, l'unique cause de l'origine, c'est vraiment la cause de dukkha. Cette ignorance fondamentale, c'est le fait de ne pas comprendre, de ne pas réaliser la nature des phénomènes et la nature de l'esprit. On croit, et je dis bien, c'est une croyance, que les phénomènes existent de telle ou telle façon et que l'esprit existe de telle ou telle façon. Le Bouddha démontre que cette croyance-là est la cause fondamentale, c'est pourquoi on appelle ça l'ignorance fondamentale, et de tous nos problèmes. Et il faut donc déraciner cette ignorance fondamentale. Mais cette ignorance fondamentale, pour la déraciner, il faut une certaine pratique. D'abord la pratique du calme mental, qu'on appelle shiné ou shamatha en sanskrit, et ensuite la pratique de l'aktong, la vision pénétrante, ou vipassana en sanskrit. Entre-temps, il faut travailler sur les manifestations ou sur comment Oui, les manifestations de cette ignorance fondamentale que sont principalement les facteurs perturbateurs. Et sous l'emprise de ces facteurs perturbateurs, on accomplit du karma négatif. Donc le voile du karma est très lié au voile des facteurs perturbateurs. Maintenant, ces facteurs perturbateurs naissent dans l'esprit parce qu'on saisit les phénomènes. C'est pourquoi en méditation, dès la méditation du calme mental, il faut s'entraîner à ne pas saisir. Ne pas saisir ne veut pas dire devenir, et Rinpoche là-dedans utilise ce terme, ne pas devenir un légume. Et moi souvent j'ajoute encore un légume anesthésié, quoi. C'est-à-dire que non, il faut être conscient de tout, mais ne pas s'accrocher à, ne pas s'agripper à la pensée qui passe dans l'esprit, à la sensation que j'ai, qu'elle soit agréable ou qu'elle soit désagréable, à la perception que j'ai aussi, c'est-à-dire au phénomène. Ça, c'est dans un premier temps. Déchiné, on peut déjà travailler sur le non-soi des phénomènes. Il n'y a pas besoin d'attendre l'acton. L'acton, ça va davantage porter sur le non-soi de l'individu, ce qui est plus complexe. C'est plus complexe parce que on a tellement l'habitude de concevoir, de se concevoir en termes d'entité unique, autonome et permanente, que ça c'est plus difficile. Mais les phénomènes, c'est assez facile de voir qu'ils n'ont pas d'existence propre, qu'ils sont tous impermanents. Mais c'est facile aussi d'observer et d'expérimenter que si je les saisis, dukkha apparaît immédiatement dans l'esprit. Et ça, il faut vraiment, vraiment faire cette expérience. Parce que tant que nous ne faisons pas cette expérience, eh bien la pratique ne va pas être amenée ou dirigée à couper, déraciner cette saisie. Quand on en fait l'expérience, nous sommes convaincus que c'est la saisie qui est le problème et qui est la source de tous nos problèmes, quoi. Donc la troisième noble vérité, eh bien elle découle de cette expérience. Et on peut la développer, mais tant qu'on n'a pas fait l'expérience de la seconde, c'est prématuré de passer à la troisième. Restez sur la seconde, autant de temps qu'il faut pour être sûr que c'est cette saisie qui est la cause de tous vos problèmes. Parce que quand c'est évident, alors la troisième devient évident, et il y a une cessation possible. Et cette cessation, c'est ne pas saisir. Dans un premier temps, ne pas saisir. Elle ne se résume pas seulement à cela, mais c'est déjà une grosse partie. C'est déjà une grosse partie de la libération de dukkha. Le fait de ne pas saisir. Et ne pas saisir, ça ne consiste pas à rejeter quoi que ce soit. Quand on est toujours dans l'aversion, on est sous l'emprise d'un facteur perturbateur. De la même façon que lorsque nous sommes sous l'emprise de l'attachement. L'aversion n'est pas la non-saisie. L'indifférence n'est pas la non-saisie. C'est être conscient de ce qui se passe, mais je laisse passer. Alors, c'est pas évident, hein. Je suis d'accord. Le Bouddha n'a pas dit que c'était facile. Mais c'est ça l'entraînement. Et la méditation doit nous amener à entraîner notre esprit à, quel que soit le phénomène qui passe dans l'esprit, à ne pas le saisir. C'est-à-dire à considérer tous les phénomènes de façon équanime, égale. Qu'ils soient agréables, désagréables ou neutres, je considère tous les phénomènes de la même façon, quoi. Je ne crains pas les phénomènes désagréables, mais je ne m'attache pas ou je ne désire pas non plus les phénomènes agréables. S'ils sont là, je les traite de la même façon. Et là, je peux constater que si je les regarde simplement, mais je ne les suis pas, et je ne sais plus quel est Rinpoche, Bokhara Rinpoche, je crois, qui disait, mais observez comme si vous étiez à la fenêtre de votre appartement et vous regardez les gens passer sur le balcon, passer sur le trottoir. Ça, ce sont les phénomènes. À partir du moment où vous dites, ça c'est une femme, oh, elle est mignonne, ça c'est un mec, il est habillé comme ci, et ça c'est un petit garçon, hein. Bonsoir Roland. etc. Là, vous êtes déjà en fait dans la saisie. Il faudrait voir passer tous les phénomènes, mais être conscient de chaque personne qui passe, mais sans les suivre, sans les rejeter, sans porter de jugement. Voilà. Et ça, ce n'est pas l'indifférence. Parce qu'il y a une grande conscience par rapport à la présence de tous ces phénomènes. Cette conscience, c'est la fenêtre par laquelle vous regardez. Mais la porte de votre appartement est fermée. C'est-à-dire aucun des phénomènes ne peut entrer dans votre esprit. S'ils entrent, c'est que vous avez laissé la porte ouverte. C'est vous qui leur demandez à entrer. C'est vous qui les retenez. C'est vous qui interpellez ce phénomène-là parce qu'il est agréable. Mais c'est vous qui interpellez aussi le phénomène que vous craignez en lui demandant de vite filer, quoi, de vite disparaître. Et là, on est dans l'attachement et l'aversion, c'est-à-dire qu'on est en train de saisir tel ou tel phénomène. Et ça, c'est une expérience qu'il faut faire. C'est une expérience qu'il faut avoir. Il n'y a rien à comprendre intellectuellement. Il faut s'entraîner à cela. Et c'est pourquoi Rinpoche définit souvent la méditation en disant la méditation, c'est s'entraîner à réagir différemment au mode de réaction qu'on utilise, eh bien, de façon ordinaire. Nous sommes empêtrés dans nos tendances et nous avons tendance à toujours réagir en s'accrochant à ce que l'on aime, à ce qui nous est agréable, en s'accrochant aussi à ce qui nous est désagréable. Et donc, on fonctionne toujours par attachement et par aversion. Et on est toujours dans ce mode de fonctionnement. Or, attachement et aversion, c'est dukkha. Aversion, c'est très clair. Mais si l'attachement, ce n'est pas clair quant à sa nature de dukkha, observez, jusqu'à en être absolument certain. Le problème, c'est que on n'imagine pas l'amour sans attachement, puisqu'on est attaché tout le temps. Mais ça, c'est une autre expérience à faire. Que l'amour peut être là sans qu'il y ait attachement. Donc cette vérité de la cessation, Rinpoche dit, cette compréhension est vitale. Une fois que nous aurons véritablement compris que l'ignorance est la cause de toute souffrance, nous serons capables de triompher de la souffrance et d'atteindre le point où toutes les afflictions cessent. Alors ça repose la question, est-ce que on en a assez de dukkha? Mais ça, c'est une question qui, à mon avis, n'est pas secondaire. C'est une question cruciale pour un pratiquant bouddhiste, puisque la voie propose la libération de dukkha. Mais a-t-on vraiment envie de se libérer de dukkha, quoi? Moi, je dis souvent, un pratiquant bouddhiste, c'est quelqu'un qui en a ras-le-bol, quoi. Qui en a marre de souffrir, qui en a marre de dukkha, à la fois pour lui et par compassion aussi pour les êtres. Mais on ne peut pas montrer le chemin à quelqu'un, le chemin de la libération, si l'on n'est pas convaincu que c'est ce chemin qui libère. Le Bouddha disait, tant qu'on n'a pas cette expérience de libération, on est comme un aveugle qui conduit des aveugles. Dans notre pratique de Bodhisattva, puisqu'on est dans le grand véhicule, la pratique majeure du bodhisattva, c'est de vite faire cette expérience. De vite comprendre, non pas intellectuellement, mais intuitivement avec notre esprit, que la non-saisie, eh bien, c'est la libération. Et ça, il n'y a que la méditation qui va pouvoir la permettre, cette expérience. Alors, Rinpoche explique aussi que, étant né dans une société bouddhiste, il est possible que j'aie moins de difficultés à accepter les enseignements du Bouddha. Pour moi, leur logique semble couler de source, ce qui fait que j'éprouve une forte conviction quant à leur Véracité. Oui, c'est vrai pour la plupart des Tibétains, mais je ne suis pas convaincu que tous les Tibétains comprennent parfaitement la voie du Bouddha. Il y a une grande part aussi de superstition, comme on trouve dans beaucoup de pays asiatiques bouddhistes. Je trouve qu'on a un désavantage en tant qu'occidentaux, c'est effectivement, nous n'avons pas été baignés depuis notre enfance dans cette culture bouddhiste. Et il y a des tas de concepts, des tas d'éléments de la voie qu'il nous faut nous approprier et avec lesquels nous devons nous familiariser. Mais en même temps, nous sommes ici par choix personnel. Et ça, c'est une force qui est la nôtre aussi. Si nous avons décidé aujourd'hui de suivre cette voie, c'est que nous l'avons décidé. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans cette voie qui nous a touchés quand même à un moment donné, et qui fait qu'on s'y est intéressé de plus près, et que nous avons décidé, eh bien, de nous y engager pour la plupart d'entre nous. Et ça, c'est une force, je pense. Hein? Mais alors, il explique qu'en Occident, par exemple, les gens ont tendance à être influencés par l'apparence des choses. Tout est vu comme survenant de l'extérieur. Par conséquent, cause et effet sont également considérés de cette façon. Ça, c'est assez clair. Récemment, quelqu'un m'a demandé: comment peut-on changer la société? Comment pouvons-nous instruire et aider les autres personnes? Et Rinpoche dit: cela démontre une très bonne motivation, bien qu'il faille observer que l'accent est mis sur le collectif. Comment pouvons-nous changer les choses et être aidants pour les autres? Au lieu de cela, l'approche bouddhiste consiste à demander: que puis-je faire? Ça, c'est une autre. Ça nous implique tous personnellement. Que puis-je faire? L'accent est d'abord mis sur la résolution de nos propres problèmes et sur le fait de gagner davantage de connaissances et une véritable compréhension. Celles-ci, à leur tour, vont générer la capacité d'aider les autres à faire de même. Tant que nous tiendrons les autres pour responsables de notre souffrance, nous passerons de très mauvais quarts d'heure. Cependant, dès que nous serons capables d'imputer la faute à nous-mêmes en disant: c'est mon problème et ma méprise, il y aura une plus grande clarté. Nous serons capables de transformer nos propres problèmes en notre propre expérience. Bien, et bien ça, c'est un autre regard qu'il faut avoir en tant que pratiquant du dharma. Et tant que nous ne sommes pas convaincus de cette deuxième noble vérité, c'est-à-dire sur la cause de dukkha, comme étant la saisie, c'est pas l'esprit de mon voisin qui saisit pour moi, hein. C'est mon esprit qui est en train de saisir, de crisper quelque chose. Et voilà. Et tant qu'on ne voit pas ça, eh bien, on mettra la responsabilité de dukkha que l'on endure sur toujours les circonstances extérieures, les autres, le temps, j'en sais rien, la politique, l'économie, l'autre qui ne m'adresse pas la parole, le fait d'avoir été trop aimé, pas assez aimé par ma mère, pas assez ci, pas assez ça, trop de ci, trop de ça. Mais c'est toujours l'autre, c'est toujours l'autre. C'est toujours un élément extérieur qui fait que je souffre aujourd'hui. Ça, c'est très occidental. Eh bien, il faut changer ce mode de fonctionnement. Il faut se dire: oui, il y a des tas de circonstances qui ne m'ont pas franchement aidé pour mon bonheur. D'accord. Mais ma façon d'être, ma façon de réagir par rapport à toutes ces circonstances, ça m'appartient. Et ça, je peux le changer. Je ne peux pas changer le fait d'être malade si je suis malade. Je peux utiliser les médicaments, un traitement, oui, d'accord. Mais le fait d'être malade, si je suis malade, je suis malade, quoi. Mais par contre, ce que je peux changer, c'est ma façon de réagir par rapport au fait d'être malade. Et ça, il n'y a que moi qui peux changer ma façon de réagir. Par rapport à quelqu'un qui ne m'a pas aimé ou trop aimé, etc. Oui, d'accord, il y a ça. Mais ma façon de réagir à ça m'appartient. Et ça, c'est la façon bouddhiste de voir les choses. Et bien souvent, quand on souffre, Il y a des perceptions, il y a des sensations, je suis bien d'accord, si on est malade, il n'y a rien d'agréable à être malade. Hein. Mais beaucoup de nos souffrances viennent des pensées qui s'élèvent dans notre esprit. Et le fait de saisir et de cristalliser ou de solidifier ces pensées. Et il y a énormément de nos souffrances qui sont dues à des souvenirs ou à des projections dans le futur. Ce ne sont pas les souvenirs en eux-mêmes qui sont souffrances, ce ne sont pas les projections non plus en elles-mêmes qui sont souffrances, c'est là encore comment notre esprit réagit par rapport au fait d'avoir ces souvenirs et ces projections. Parce que les souvenirs, nous en aurons tout le temps. Nous sommes des êtres qui pensons et qui réfléchissons et qui se souvenons. On se souvient. Il y a la mémoire, il y a le souvenir. Il y aura toujours des souvenirs, des bons, des mauvais, mais il y aura toujours cette activité-là. Et il y aura toujours la faculté de se projeter dans l'avenir. Et il y aura toujours la pensée de notre mort. Je ne sais pas si les animaux ont la projection de leur propre mort, j'en sais rien, mais en tout cas, nous l'avons, quoi. Et c'est pour ça qu'on flippe à longueur d'année. Parce qu'on sait qu'on va mourir. Or, ce n'est qu'une pensée. C'est ce qu'il faut se dire quand, cette pensée-là fait naître dukkha dans notre esprit. Il ne faut pas rejeter cette pensée, mais il faut se dire, mais si dukkha apparaît, c'est que je suis en train de la saisir. Qu'est-ce que je suis en train de saisir? Et il faut faire l'expérience que si je ne la saisis pas, la pensée ne va pas disparaître. Mais malgré la présence de cette pensée, mon esprit va se libérer de dukkha. Un grand pratiquant, il sait comme nous qu'il va mourir. Seulement, on ne peut pas dire que cette pensée ne fait plus naître dukkha dans son esprit. Parce que ce n'est pas la pensée qui fait naître dukkha. C'est la saisie de cette pensée qui fait naître dukkha. Or, comme un grand pratiquant ne saisit plus, que cette pensée soit là ou que cette pensée soit absente, son esprit reste dans un état de calme. Alors, ce n'est pas un état comme ça, plat, dans lequel plus rien ne se passe, mais c'est un état de sérénité, un état de paix. Et ça ne va pas... Alors, Rinpoche explique que cette expérience ne va pas s'élever dans l'esprit parce qu'on le décide un matin, elle va s'élever le soir, quoi. C'est tout un processus qui va prendre des années. Pourquoi? Parce qu'on est formaté, on n'a jamais entraîné notre esprit à ne pas saisir. Jusqu'à présent, on a tout saisi. Tout ce qui passait, on saisissait. C'est le mode de fonctionnement de l'esprit. C'est ce qu'on appelle le samsara, ce mode de fonctionnement. C'est ça le samsara. C'est pas une planète sur laquelle on vit, et la planète est en elle-même souffrance. C'est ce fonctionnement de l'esprit qu'on appelle samsara. Samsara voulant dire souffrance, quoi. Dukkha. Présence de dukkha. Donc, la méditation, ça consiste à s'entraîner à ne pas saisir et à expérimenter. Et c'est pourquoi les personnes qui pratiquent, et quel que soit le moyen qu'elles utilisent pour pratiquer, mais qui pratiquent en attendant que la pratique transforme leur esprit, mais qui n'observent pas pendant leur pratique, qui ne sont pas conscients pendant leur pratique que du fonctionnement de leur esprit, vous savez, ces personnes peuvent pratiquer encore longtemps, quoi. À mon avis, elles ne pratiquent pas la méditation. Elles pratiquent des moyens, mais sans véritablement donner le sens que doit permettre ce moyen. Nous devons observer et comprendre ce fonctionnement de l'esprit et en quoi il est erroné. Donc Rinpoche explique qu'en travaillant sur nous-mêmes de cette manière, nous atteindrons finalement la cessation de la souffrance. Et il y aura un changement graduel dans notre façon de voir les choses et d'y réagir. Nous comprendrons que la puissante impulsion de toujours fuir ou courir après quelque chose, qui est initiée par l'aversion et l'attachement, est due à notre propre confusion. Une fois que nous aurons compris que nos réactions habituelles sont causées par une manière erronée de voir les choses, nous comprendrons également à quel point il est inutile de fonctionner sur ce mode. Et quand nous ressentirons profondément qu'il n'y a pas le moindre besoin de lutter, quand nous aurons acquis à ce propos une véritable et profonde compréhension basée sur l'expérience, notre confusion sera clarifiée. Notre méprise sera éliminée et nous verrons la réalité telle qu'elle est. Quand cela sera vu, il y aura la paix, la quiétude et la liberté. Alors ça implique de comprendre pourquoi on ne saisit pas les phénomènes. Et ne parlons pas de la nature de la conscience qui saisit. Entraînons-nous à ne pas saisir les phénomènes. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas les saisir? Parce qu'il n'y a rien à saisir. Il n'y a rien à saisir. Et quand tout à l'heure dans la méditation, je disais « Observez les phénomènes et voyez la nature de ces phénomènes, à savoir qu'ils sont impermanents et qu'ils sont dépourvus d'entité propre », eh bien c'est ce qui va faire naître la non-saisie. Ils sont impermanents, ils passent, ils demeurent un certain temps, mais ils disparaissent, quoi. Et ça, il n'y a pas besoin d'observer quand même pendant des siècles. Il y a à constater que si je ne m'accroche pas à cette pensée, eh bien la pensée, oui, elle demeure un certain temps, mais c'est une énergie qui disparaît, quoi. Elle s'efface, puis voilà. Regardez le nombre de pensées qu'on a eues depuis ce matin, mais où sont-elles, que sont-elles devenues, quoi. Et tous les phénomènes sont de cette nature. Les sensations sont de cette nature. Vous allez me dire, il y a des sensations qui durent plus longtemps que d'autres. Je suis d'accord. Mais il n'y en a pas une qui soit permanente. Les perceptions, il n'y en a pas une qui soit permanente. Et tous ces phénomènes, ils n'ont aucune existence par eux-mêmes. Ils dépendent tous de ci, de ça, de... Si l'autre, si je souffre aujourd'hui à cause de ce que m'a dit l'autre, c'est parce que l'autre existe. Hein. Parce que s'il n'existait pas, il n'aurait pas pu me dire quelque chose eh bien, qui m'est désagréable et que j'ai bien saisi. Quoi. Donc, ce qu'il m'a dit, en fait, ça dépend de cet individu, lequel individu n'a aucune existence non plus par lui-même, etc. Ou alors, il y a une situation, une circonstance qui fait que, eh bien, il y a tel phénomène qui s'élève dans mon esprit. Mais ce phénomène-là est bien dû à cette circonstance ou cette situation. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, mais la pratique, c'est être conscient de ce que ça fait naître dans notre esprit et pas seulement de la concentration sur ce que je suis en train de faire, quoi. Parce que ça permet de comprendre la nature de ce phénomène. Ça ne va pas faire disparaître le phénomène. Et ça, c'est encore une autre erreur que très souvent on fait, c'est on comprend, on imagine que la libération de dukkha, ça consiste à ce que le phénomène disparaisse. Et s'il disparaît, alors je ne souffre plus. Et ça, c'est complètement erroné, quoi. Le phénomène, il est dû à de multiples causes et conditions pour qu'il apparaisse. Donc, c'est légitime qu'il soit là. Si vous avez pris froid, c'est légitime d'être malade. Le rhume que vous avez, et il vient de ces voilà. Mais par contre, donc ne vous attendez pas à ce que pour être libéré de l'inconfort que ça vous procure, que le rhume disparaisse. Vous pouvez vous libérer de cet inconfort alors que le rhume est toujours là. Chez un grand pratiquant, ils ont des maladies comme nous. Ils rencontrent des circonstances désagréables comme nous, mais leur esprit est toujours en paix. Donc cette paix n'est absolument pas liée à l'absence des circonstances défavorables. Ils connaissent la maladie, ils connaissent la mort, ils connaissent le retard d'un avion, ils connaissent des gens pas sympathiques avec eux. Exactement, ils rencontrent exactement la même chose que nous, quoi. Ils vivent la même chose. Seulement, leur esprit ne le vit pas de la même façon. Ce qui importe de comprendre dans le contexte des quatre nobles vérités, c'est que quelqu'un qui a réalisé la cessation de la souffrance, ou l'état de nirvana, le Bouddha utilise ce terme, ne réagira plus sur le mode de l'aversion et de l'attachement. Une telle personne percevra les choses de manière non dualiste et de ce fait non conceptuelle. À nouveau, cette affirmation peut générer toutes sortes d'interprétations. La plupart des gens vont penser qu'une fois que cette réalisation sera atteinte, nous ne nous préoccuperons plus de rien et nous réagirons comme un légume. Étant non-dualistes, nous ne saurons plus qui nous sommes ni qui sont les autres, comme si nous étions devenus semblables à un espace vierge. Bien que cette idée s'élève fréquemment, la réalité est assez différente. Pour le moment, nous voyons les choses et nous y réagissons en termes de contraste et de jugement, tels que « cela est bon, cela est mauvais, j'aime cela, je n'aime pas cela, je veux cela, je ne veux pas cela, cela me fait peur, je désire cela », etc. Tout est vu sur ce mode fragmenté et totalement déformé. Tout ce qui est perçu est immédiatement étiqueté comme bon ou mauvais, et ainsi de suite. Et ce schéma se poursuit à l'infini. Nous ne voyons jamais une chose telle qu'elle est. Nous ne voyons que ce qu'il y a dans notre esprit et ce qui a été construit par toutes sortes de concepts. Ça, c'est le propre de la perception. On est là à s'extasier sur quelque chose de beau. C'est beau pour qui, quoi? Uniquement pour soi-même. Et on trouve ça beau comme si c'était cette beauté qualifiait exactement la nature de cet objet. L'autre à côté peut être totalement insensible à cet objet, il peut trouver ça complètement moche. Alors qui a raison dans le lot? Cette perception est liée au conditionnement de notre esprit. Donc ça relativise nos perceptions, nos jugements, nos valeurs qu'on impose comme universel, définitif, et ça doit être comme ça et pas autrement, quoi. Notre perception est fondée sur l'habitude, dit Rinpoche. Sur l'habitude, sur les tendances. Nous avons toujours fonctionné comme ça, alors nous continuons de fonctionner comme ça. Et nous pensons que cette façon-là est la seule qui doivent exister. Voilà, lorsque nous affirmons qu'une chose est belle, c'est là notre propre contribution. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde, comme dit le proverbe. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir de l'attachement. Alors, ça, c'est, il faut bien comprendre qu'on peut trouver quelque chose de très beau si c'est notre perception qui nous fait trouver cette chose belle et que nous en éprouvons du plaisir, mais prenons ce plaisir et disons, pour moi, cette chose est belle, et je peux profiter de ce plaisir. Mais de là à développer de l'attachement, ça c'est un problème. Ça c'est une solidification. Et c'est l'attachement qui fera souffrir. Le plaisir, le fait de trouver ça agréable par exemple, n'est en aucun cas cause de dukkha. Donc, il n'y a pas à rejeter le plaisir. Ce qui est à rejeter, c'est l'attachement par rapport au plaisir. Parce que dès que, comme disait Rinpoche tout à l'heure, à la fois dans l'attachement, dès qu'il y a attachement et dès qu'il y a aversion, on passe de très mauvais quarts d'heure. Donc il n'y a plus rien d'obsédant ou d'effrayant lorsque cette réaction duelle a disparu. Nous voyons clairement, et rien ne semble imposant du fait que nous n'imposons rien par nous-mêmes. Quand il n'y a rien que nous n'aimions pas, il n'y a rien à craindre. Étant libres de la peur, nous sommes en paix. Il n'y a aucun besoin de fuir quelque chose, et par conséquent, aucun besoin de courir après quelque chose non plus. Dans cette façon, il n'y a pas de fardeau. Nous pouvons avoir une paix intérieure, une force et une clarté presque indépendamment des circonstances et des situations. C'est une complète liberté d'esprit sans aucun imbroglio lié aux circonstances. Cet état est appelé nirvana, ce qui signifie littéralement aller au-delà. Quelqu'un qui a atteint cet état est allé au-delà de notre façon usuelle d'être emprisonné dans des modèles habituels et des manières déformées de voir les choses. Et ça, c'est déchiné. Il ne faut pas attendre l'acton, quoi. Si vous faites cette pratique de reconnaissance de la nature des phénomènes dans Shiné, vous pratiquez déjà l'Aktong avec Shiné. Et il y a beaucoup d'avantages, je pense, à pratiquer l'Aktong avec Shiné, parce que dès le début, eh bien, on fait l'expérience qu'il y a une cessation possible à Dukkha. Et cette expérience, elle va nourrir la pratique, elle va nous motiver, on aura envie de méditer parce qu'on voit que ça fonctionne, on voit que c'est ça, saisir c'est le problème et la non-saisie, eh bien c'est la libération. Donc toute notre pratique va se focaliser sur la non-saisie. Alors maintenant, quelle est la vérité du chemin, c'est-à-dire la quatrième noble vérité? Le chemin, comme dit Rinpoche, ça consiste à comment travailler sur les causes de la souffrance. Cela doit être assimilé lentement et graduellement. Alors ça, c'est important aussi d'avoir la patience avec notre pratique, quoi. Il dit, ce n'est pas quelque chose qu'on accomplit en commençant le matin et en étant illuminé dans la soirée. Certains individus peuvent être capables de telles prouesses, mais la plupart ne le sont pas. Et d'un autre côté, chaque minuscule amélioration sera d'une grande aide et s'avérera extrêmement profitable. Alors, le chemin, c'est l'octuple sentier. Dans cet octuple sentier, il y a la vue juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence juste, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Voilà le chemin bouddhiste. Et celle-ci, ces huit branches, peuvent être regroupées en trois catégories, qui sont la vue juste, l'action juste et la méditation juste. Et la vue juste comprend la compréhension juste et la pensée juste. Et Rinpoche, dans cet ouvrage, commence directement à détailler la vue juste. Et c'est, à mon avis, la plus difficile, quoi. Mais c'est, je pense qu'il y a un intérêt à commencer dès à développer la vue juste, à comprendre ce qu'on appelle la vue juste, parce que c'est par cette compréhension que la non-saisie peut s'établir dans l'esprit. Et les autres vont découler, en fait, de cette vue juste. Très souvent, on commence par les autres branches de l'octuple sentier. Par exemple, l'action juste. Alors, on va s'efforcer de ne pas faire ci. On va s'efforcer de plutôt accomplir ça. La parole juste, eh bien, on va s'efforcer de ne pas mentir, de ne pas avoir des propos blessants, etc. Et mais plutôt d'avoir des propos agréables et positifs, etc. Mais si ce n'est pas lié à la vue juste, à la compréhension juste, on voit ça plutôt comme une espèce de contrainte à laquelle il faut s'atteler tous les jours. Or, quand on a une compréhension de la vue juste, les actes négatifs, s'empêcher d'accomplir des actes négatifs, mais ça coule de source. Les paroles négatives, ça coule de source. Les moyens d'existence juste, ça coule de source. L'action juste, etc., et ça coule de source. Donc c'est, à mon avis... J'en sais rien pourquoi il a commencé, mais je comprends en tout cas pourquoi il a commencé par la vue juste de cette façon, quoi. Nous débarrasser de nos vues et attitudes erronées est donc la question la plus essentielle du bouddhisme. Ce qui ne veut pas dire que nous devrions essayer d'adopter une manière bouddhiste de voir les choses. Nous devrions plutôt essayer de découvrir comment les choses sont réellement. Ça rejoint ce qu'on a développé tout à l'heure, hein. À cette fin, une compréhension intellectuelle est utile, mais n'est pas suffisante en elle-même. Ce que nous avons besoin de développer, c'est une vue juste en termes d'expérience directe et authentique. Et là, c'est important de retenir cette réflexion. Notre pratique, hein, c'est le développement d'une expérience directe et authentique. Il y a une différence entre une compréhension issue d'un enchaînement de raisonnements et une expérience véritable ou une réalisation. Par une simple compréhension intellectuelle, nous n'avons pas la possibilité d'annihiler une habitude profondément ancrée. Voilà. Nous devons passer à la méditation pour nous déformater. Nous sommes tellement formatés que même la compréhension intellectuelle ne va pas déraciner ce formatage. D'où l'importance de la pratique. C'est pourquoi le Dharma met tant l'importance sur la pratique. Et la pratique, alors comme on disait tout à l'heure, c'est effectivement s'asseoir sur son coussin pour nourrir la pratique en action, c'est la pratique en action aussi, mais c'est s'entraîner de façon plus profonde. Quand vous avez des vacances, faites une semaine de retraite, quoi. Parce que là, il va se passer autre chose dans l'esprit que de méditer tous les jours 30 minutes sur son coussin. On va pouvoir être confronté à de bonnes saisies. Il ne faut pas vous imaginer qu'une semaine de retraite, ça se fait les doigts dans le nez, et encore plus les retraites de longue durée. On est confronté, eh bien, à, je ne dis pas nos démons intérieurs, mais à nos saisies, ce fonctionnement qui saisit tout. Le premier jour sur une semaine, le premier jour, il y a l'enthousiasme de se dire « Ah, ben, je vais faire une retraite, c'est bien. Bon. » Deuxième jour, ça va encore, mais alors le troisième, en général, c'est le troisième où ça crise, quoi, sur une semaine. Parce qu'il y a quelque chose qui s'installe, c'est l'ennui, quoi. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à faire que d'observer son esprit. Il y a des jours, on voudrait bien aller prendre un pot et discuter de tout et de rien avec un copain, son voisin. On aimerait bien mettre la télé ou lire un roman ou aller au ciné ou faire une balade, etc. Or, quand vous êtes en retraite, vous ne pouvez que regarder votre esprit. Alors vous découvrez des tas de choses, mais c'est là où ça crise. Et que c'est quand ça crise, eh bien qu'il y a la meilleure expérience qui peut s'élever dans l'esprit. Parce que si vous êtes bien sincère avec vous-même, c'est quand ça crise, bien, eh bien que vous voulez vous libérer de cette crise. Et là, vous êtes obligé de faire l'expérience que si ça crise, mais c'est que vous êtes en train de bien crisper, de bien saisir quelque chose. Quand il n'y a pas de crise, quand nous ne sommes pas confrontés à ces crises intérieures, à mon avis, on ne médite pas, on ronronne. Mais quand ça crise bien, c'est là où on applique vraiment les enseignements qu'on a reçus. Surtout quand il n'y a pas d'échappatoire, quoi. Vous êtes obligé de faire face, et vous pouvez faire face, mais pendant 2 jours, 3 jours, sur les retraites de longue durée, je peux vous dire que ça peut criser, mais pendant des jours et des jours, quoi. Et vous êtes là en face, et vous ne savez pas comment vous dépêtrer du truc, quoi. Eh bien oui, c'est parce que vous êtes bien en train de... Vous êtes comme ça, quoi. Votre esprit est comme ça. Et à un moment donné, vous en avez tellement marre que... Mais vous lâchez tout, quoi. Vous dites, mais je ne peux pas continuer comme ça, je deviens dingue, quoi. Et là, tout s'ouvre. Et alors, c'est là, c'est cette expérience qui montre, eh bien, que quand ça s'ouvre, mais tout se libère, mais alors en un instant, quoi. Et bien souvent, ce ne sont que des pensées que l'on est en train de crisper. Et il faut se dire avec un peu d'humour, mais ce ne sont que des pensées, quoi. Je suis complètement stupide de m'accrocher à des pensées, quoi. Et de prendre du recul, et avec humour, et voir que la saisie, mais elle ne saisit que du vent, quoi. Que quelque chose qui traverse l'esprit, et qu'il n'y a rien de réel sur lequel on est en train de crisper. C'est-à-dire qu'on découvre, mais on est schizo, quoi. On a une... je ne sais pas si schizo est le bon terme, mais en tout cas, il y a une façon de fonctionner dans notre esprit, mais qui est complètement malade, quoi. Et on souffre à cause, eh bien, de ce mode de fonctionnement, et qui est complètement erroné, quoi. Donc c'est pour ça que Rinpoche dit, c'est pas une façon bouddhiste de voir les choses. C'est être amené à expérimenter les choses telles qu'elles sont. C'est voir les choses telles qu'elles sont. Alors, ça je l'ai dit. C'est ce dont il s'agit, hein, cette compréhension mais en tant qu'expérience, ce dont il s'agit quand le Bouddha parle de compréhension juste. Une compréhension intellectuelle correcte est toutefois indispensable à la poursuite de ce but. Trois aspects sont requis de manière à parvenir à la vue claire et correcte qui est nécessaire. L'étude, la réflexion et la méditation. Donc le bouddhisme, attention, ne nie pas l'étude, l'approche intellectuelle. Mais il faut aller plus loin, il faut approfondir notre réflexion à partir de cette étude, mais ensuite entraîner notre esprit par rapport à la compréhension qu'on en tire et appliquer. Et ça, ça veut dire méditer. En plus, pour faire ce travail, nous avons également besoin de bonnes circonstances. Celles-ci nous sont procurées par l'action juste et les moyens d'existence justes. Tout cela est interdépendant. Et c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais, mais de faire des périodes de retraite si vous en avez la possibilité, quoi. Parce que dans un centre où on peut faire des périodes de retraite, on n'a pas à s'occuper de l'intendance, on n'a pas à s'occuper de ce qui se passe dans le monde, en retraite même d'une semaine, mais laissez votre portable éteint, sauf si c'est pour appeler votre conjoint une fois par jour pour dire que tout va bien, quoi. Mais le reste du temps, surtout l'habitude de laisser le portable ou d'allumer le portable dès qu'on ouvre un œil le matin, hein, il y a des personnes, je sais qu'elles fonctionnent comme ça, laissez de côté, quoi. Laissez de côté ce fonctionnement, quoi. La seule télé que vous avez en retraite, c'est votre esprit. Ben, y a plus de chaînes que dans une télé ordinaire. Hein. Ça, vous pouvez vous faire de nombreux films. Hein. Et alors, on manque pas d'imagination. Hein. Donc, pour parvenir à cette vision, nous devons construire notre compréhension petit à petit, en commençant par les quatre nobles vérités. Une connaissance correcte des quatre nobles vérités fait également partie de la compréhension juste. Sachant que les choses changent constamment, qu'elles sont interdépendantes et que rien n'existe comme étant son propre résultat, nous serons finalement capables de voir la nature de tous les phénomènes. Rien n'a de substance réelle, rien n'est tangible. Lorsque la véritable absence de soi est expérimentée, on est joyeux et stable, tous nos problèmes sont résolus. Lorsque la vue juste est présentée, elle est habituellement appelée la voie du milieu. Alors, Rinpoche redéfinit ce qu'on entend par la voie du milieu. Ce terme est utilisé pour signifier que notre vue devrait être libre de tout extrême. Sachant que tout se produit en termes de cause et d'effet, nous ne tomberons pas dans l'extrême du nihilisme. Il n'y a pas simplement rien du tout. D'un autre côté, on ne peut pas dire non plus que cause et effet soient substantiels. Ils ne constituent pas une réalité solide. Tant qu'ils sont là, ils sont là. Mais dès qu'ils ont changé, ils ont changé. La vue juste n'est donc pas éternaliste non plus. Et la vérité se trouve entre les deux. C'est donc ce qu'on appelle la voie du milieu. Et Rinpoche parle de la vacuité. Il dit le terme vacuité est souvent utilisé, mais il peut être un peu effrayant et se prête facilement à des interprétations erronées. Si l'on devait décrire la vue juste à l'aide d'un mot, interdépendance serait un très bon choix. La vacuité n'est rien d'autre que l'interdépendance. Cela signifie que rien n'a de substance indépendante. Rien n'existe en tant que résultat de soi-même. Rien n'est permanent ou indépendant de tout le reste. Tout est conditionné et interconnecté par le fait d'être cause et effet. Cette interdépendance ayant été comprise, on comprend la nature vide de tous les phénomènes. La vue juste est donc très simple et très profonde à la fois. Et je trouve très juste de davantage parler d'interdépendance que de vacuité. Parce que quand on s'habitue à tout voir comme étant interdépendant, et si ce n'est pas clair dans votre esprit, habituez-vous à analyser l'interdépendance, c'est-à-dire à voir dans n'importe quel objet, prenez n'importe quel objet qui se trouve devant vous et voyez tout ce qui entre pour que cet objet existe. Et allez au-delà des éléments visibles que vous sentez présents dans son existence. Si c'est ce bol, ok, vous voyez les métaux, la forme, mais voyez aussi l'individu qui a donné la forme et l'existence de l'individu qui a donné cette forme, d'où vient-elle, quoi. Mais voyez aussi la présence de la planète, parce que la planète est présente, dans les éléments sont présents dans ce bol, etc., etc. Notre perception première des phénomènes, c'est de les voir comme existants par eux-mêmes. On dit les situations existent par elles-mêmes, les objets existent par eux-mêmes. Il faut habituer notre esprit à voir l'interdépendance. Et plus notre esprit va s'habituer à l'interdépendance, eh bien plus il va s'habituer par le fait à ce qu'on appelle la vacuité, c'est-à-dire vide d'existence propre. Et là, il n'y a pas de risque de tomber dans le nihilisme. Nous devons transformer notre compréhension intellectuelle en une expérience véritable dans laquelle nous pouvons demeurer et amener cette compréhension de notre tête à notre cœur. Il est dit que ce voyage est le plus long qui soit. C'est par ces trois aspects que nous pouvons développer graduellement la vue juste, donc ces trois aspects étant l'étude, la réflexion et la méditation. Voilà, et on s'arrêtera là ce soir sur la vue juste. Après, on passera à la pensée juste. Alors, je suis d'accord, ce n'est pas facile. Il y a des moments où on va complètement oublier cette vue juste et oublier de se rappeler eh bien, qu'il faut faire cet exercice. Mais il faut se faire des rappels. On voit ça dans la pratique de Lojong, hein, l'entraînement de l'esprit. Il faut se faire des rappels. Mais c'est ce qu'il faut faire quand on est en méditation. Observer les phénomènes en méditation. Vous avez la pensée de quelque chose qui s'est produit de douloureux, de désagréable il y a peu de temps. Vous êtes en méditation, cette pensée, elle ressurgit. Faites l'expérience. Si vous ne la saisissez pas, la pensée va être là quand même. Elle ne va pas disparaître. Mais si vous ne la retenez pas, si vous ne la saisissez pas, vous allez voir qu'elle est mouvement. Qu'elle est mouvement. Elle ne peut pas s'arrêter. Elle ne fait que passer. Si elle s'arrête, c'est que vous la retenez, vous la saisissez. Et si vous la saisissez, dukkha apparaît immédiatement. Mais si vous la regardez passer, regardez-la passer. Mais osez. Autorisez-vous à la regarder passer. Ne la craignez pas. Il n'y a qu'une chose qu'il faut craindre. S'agripper à cette pensée. Ouais.
Je trouve que ça aide beaucoup quand on ressent cette interdépendance, pas tout le temps, mais vis-à-vis des gens, on s'arrête mieux, on comprend mieux les personnes, on a moins de jugements moralisateurs, toutes ces étiquettes qui nous ferment. On a toute la société, tout le monde a une étiquette. Et quand on sent que la personne est le résultat d'un tas d'influences, de toute cause et d'effet et tout, on devient plus aimant, quoi. On est moins coupé. C'est un aspect, ça, je trouve.
Quand vous avez cette façon d'observer et cet entraînement à la non-saisie. Après, vous pouvez utiliser n'importe quel moyen que propose le Dharma. À condition que le moyen que vous utilisez favorise cette non-saisie. Vous permette de mieux, de plus développer cette non-saisie. Alors ça peut être un moyen propre au Vajrayana, une pratique de Yidam, une pratique de Guru Yoga, de ce que vous voulez. Ça peut être selon les sutras, seulement, vous êtes là, assis. Vous savez, les pratiquants du Mahamudra, Rinpoche par exemple, c'est un pratiquant du Mahamudra sans forme. C'est-à-dire que quand il est assis, il observe son esprit, c'est tout ce qu'il fait. Ça, c'est l'ultime du Mahamudra. Son oncle, vous savez, qui est décédé il y a 2 ans, quelque chose comme ça, qui lui était beaucoup dans les pratiques formelles, Il engueulait de temps en temps Rinpoche en lui disant ouais, vous pratiquez pas Rinpoche, etc. Et Rinpoche rigolait. Parce que ben on n'est pas obligé d'accumuler des mantras, des mantras et des mantras. Si la pratique formelle vous permet d'être beaucoup plus, d'être un outil pour parfaire cette non-saisie, alors c'est très bien, c'est très bien. Et je ne dis pas que ça n'a pas d'utilité. C'est très bien. Mais l'essence de la pratique, c'est de savoir ce qui se passe dans l'esprit et de ne rien saisir, quoi. D'autres questions? D'autres interventions?
Comment distinguer la non-saisie du rejet?
Il y a une détente dans l'esprit, dans la non-saisie, qui n'existe pas dans le rejet. Il y a un espace, oui, une détente. Il y a une acceptation dans la non-saisie. L'acceptation de la présence de ce phénomène. Il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'appréhension. Donc il n'y a pas d'aversion par rapport à ce phénomène. On fonctionne aujourd'hui tout le temps sur l'aversion. L'appréhension, c'est une sorte d'aversion. Et puis sur l'attachement. Donc on sait qu'on établit qu'il y a certaines pensées qui vont faire naître cette aversion et d'autres pensées qui vont faire naître l'attachement. Il y a hier soir une personne à Nancy qui me dit, suite à ça, elle me dit, mais est-ce qu'il ne faut pas vider les pensées quand on médite? Jamais on a dit qu'il fallait vider quoi que ce soit, quoi. On aura toujours des pensées, la conscience mentale, si elle fonctionne, elle fonctionne. Conscience visuelle, si elle fonctionne, on voit, quoi. Quand la conscience mentale fonctionne, on pense. Donc c'est pas la pensée, c'est pas les pensées qui sont le problème.
Dans la non-saisie, il n'y a pas un risque d'aller vers l'indifférence, s'il vous plaît?
Alors, allez-y. Enfin, allez-y pendant l'indifférence. Allez-y dans la pratique, c'est-à-dire habituez-vous à ne pas saisir. Voyez ce qui se passe. Et en fonction de ce qui se passe, eh bien on pourra en reparler et déterminer si c'est de l'indifférence ou de la véritable non-saisie. À mon avis, vous êtes capable de voir si c'est la non-saisie ou si c'est de l'indifférence. Parce que les qualités de l'esprit qui se développent dans la non-saisie ne sont pas présentes dans l'indifférence. Et l'indifférence est donc un facteur perturbateur, c'est un voile. Mais il ne faut pas qu'on se décourage non plus, parce que bon, j'ai l'impression que c'est un peu lourd, mais il ne faut pas qu'on se décourage parce qu'on n'arrive pas à ne pas saisir à longueur de journée. Rinpoche parle de voie graduelle, hein, progressive. Donc il faut s'entraîner, et c'est ça la méditation, quoi. Alors après, chacun s'entraîne ben, en fonction de ses possibilités, mais il faut s'entraîner. Jusqu'à ce que ça devienne eh bien, habituel à ne pas saisir. Et il va falloir s'entraîner un peu, quoi.
Et puis ne pas saisir, ce n'est pas ne pas faire, non plus.
Ah ben, c'est absolument.
Ouais. Parce que, bon, on agit, nous oblige à faire.
Mais même quand vous ne saisissez pas du tout, vous faites. C'est ce qu'on appelle à ce moment-là l'action juste. Mais vous ne faites pas sous l'emprise de la colère, de l'aversion ou de l'attachement, ou de l'indifférence, etc. C'est ce qu'on appelle à ce moment-là le non-agir, mais le non-agir n'est pas devenir un légume. Ouais.
Quand on n'a pas de pensée, on a seulement l'impression d'être là, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas méditer?
Alors ça dépend. Est-ce que c'est il faut parler de cet état de non-pensée. Il faut déterminer comment est cet état de non-pensée. Ça peut être un état d'opacité, voire subtil, mais d'opacité. Ça peut être un état véritable de non-pensée, c'est-à-dire d'espace entre la fin d'une pensée et l'apparition de la prochaine. Ça peut exister.
Et quand il n'y en a pas?
Quand il n'y en a pas.
D'un bout à l'autre.
De la journée?
Non, pas de la journée.
Oui, et ben il faut
des minutes, allez.
Très long.
J'en ai conscience qu'on n'a pas de pensée, donc déjà c'est
non, 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 non. Mais il faut à ce moment-là vraiment déterminer si c'était à quoi ressemble. Il faut parler de cette expérience et mettre des mots sur cette expérience de façon très claire. Oui, mais ça, on ne va pas le faire comme ça maintenant. Il faut qu'on discute et que je vous pose des questions sur la qualité de cet espace. Parce que dans l'opacité, il y a la notion d'espace qui est là. Donc ce n'est pas suffisant comme réponse, si vous voulez.
Comme une protection pour éviter certaines pensées, peut-être aussi.
Non, non, mais là, on est plus dans l'analyse de l'expérience, on est dans l'interprétation de l'expérience.
Ça peut être une stabilité, non ?
Mais là, on est dans l'analyse dans l'interprétation. On cherche à savoir ce que ça, à quoi correspond. Il faut que Sonny par des questions bien précises, tu puisses répondre à ces questions-là, ce qui va déterminer la nature de cette expérience. Et c'est par ça, cet échange, que l'on peut reconnaître si c'est une expérience d'opacité subtile ou si c'est une expérience de véritable calme de l'esprit.
Les questions,
il faut qu'on se les voit. Il faut qu'on se voit.
Donc tu prends un rendez-vous pour un entretien.
Voilà, mais il faut, c'est très bien d'évaluer ce genre d'expérience. Parce que vous avez des personnes qui peuvent passer des années en étant persuadées qu'ils sont dans le calme mental, or elles sont dans une expérience d'opacité subtile. Et alors c'est une perte de temps totale, quoi. Elles sont très bien, il y a de la détente, il y a de l'espace, elles sont très bien, mais elles sont dans l'opacité. Et ça, il n'y a rien de libérateur dans ce genre d'expérience.
Sauf provisoirement.
Non, même pas, du tout. Ça entretient une tendance à l'opacité. Donc ça amplifie un des facteurs perturbateurs. L'opacité, ce n'est pas simplement dormir. Hein. Il y a un état d'opacité très subtil qui est... et qui nous maintient dans le samsara, c'est pas du tout libérateur du samsara. Donc il faut bien déterminer ça.
Et je vais poser une petite question.
Oui, bien sûr.
Quand on médite dans les sensations, et qu'il y a de... donc c'est solidifié, enfin c'est solide, est-ce qu'on reste sur la partie qui est solide, ou on doit partir ailleurs? Enfin, sur les pensées, je parle que si on part sur le corps...
Oui.
Et j'ai quelque chose qui me fait mal à ce niveau-là.
Oui, oui.
Est-ce que je reste sur cette douleur
et
jusqu'à temps qu'elle se dissout, ou est-ce que je pars sur une autre zone?
Eh bien, vous pourriez faire comme disait Maître Deshimaru. Il disait, si vous avez le genou en feu quand vous méditez, vous pouvez vous focaliser sur cette sensation. Vous êtes sûr que votre esprit ne sera pas préoccupé par d'autres phénomènes. Donc il disait, c'est un excellent support de méditation. Bon, on peut ne pas adopter son point de vue. Hein. Mais faites l'expérience. À ce moment-là, essayez d'expérimenter la nature de cette sensation. Comme étant interdépendante et comme n'ayant pas d'existence propre. Et vous la regardez sans vous y agripper. Et voyez ce que vit l'esprit à ce moment-là par rapport à cette sensation. Bon, ben voilà.
Je ne savais pas trop s'il fallait rester dessus ou partir ailleurs pour justement la laisser partir.
C'est une très bonne expérience de prendre pour support cette sensation, mais pas seulement de vous concentrer sur la sensation, mais de voir la nature de cette douleur.
Parce que derrière, il y a des trucs subtils après.
Oui, ouais. Alors il ne faut pas entrer dans l'analyse, pourquoi, d'où elle vient, etc. Hein? Mais... Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, c'est confirmé, hein, le Dalai Lama vient bien à Strasbourg les 16, 17 et 18 septembre l'année prochaine. Il y a une association qui a été créée, c'est Mandala Strasbourg 2017, qui sera détruite après l'événement. Et sans doute que les réservations se feront à partir de début janvier. Voilà. Si vous avez besoin d'un hôtel à Strasbourg, prenez-y, il faut vous y prendre de bonne heure. Il y a déjà des personnes qui ont réservé une chambre d'hôtel à Strasbourg, parce que à Strasbourg, apparemment, il n'y a pas 9500 lits en chambre d'hôtel. Hein. Comment ?
Où est-ce qu'il va venir,
le Dalai Lama, à Strasbourg ? Au Zénith. Ah, okay. Au Zénith, ouais. Et Ringo Rinpoche est très content que Bodhicharya France soit un membre fondateur pour cet événement. Il l'a redit, il a envoyé il y a deux jours un mail à Sacha là-dessus. Il partait, il était en partance pour sa tournée aux États-Unis, Amérique du Sud, et tout ça. Et il viendra à Luce fin avril ou début mai. Ouais. Mais ça, on n'a pas encore les dates. C'est Bernie qui était là le mois dernier, qui s'occupe du planning de Rinpoche. Et je peux vous dire que c'est compliqué. Il s'arrache les cheveux, Bernie. Parce que c'est... Tous les centres ont des exigences de jour, de date. C'est clair. Donc, faut jongler et satisfaire tout le monde, c'est compliqué. Alors, de temps en temps, il y a Rinpoche qui envoie un mail à Bernie en disant « Oh, le 17 février, il faut que je sois à Francfort, alors qu'il devait être à Madrid. » Et pof, ça bouscule tout. Et il faut tout reconstruire. Donc, c'est pourquoi, des fois, c'est pas très logique, les déplacements de Rinpoche. Quelquefois, il est à Londres, il va à Dublin, de Dublin, il va à Francfort, puis il revient à Londres, ensuite il va à Munich. Voilà, c'est ouais. Rien d'autre ? Ça va ? Oui, Georges.
Est-ce que Samsara, il est indissociable du Nirvana ?
Il est, oui. C'est ce qui est dit dans une prière qu'on récite le matin à Luce. Mmh. Et on s'adresse à la lignée, on dit... bénissez-nous afin que je réalise l'indissociabilité du samsara et du nirvana. C'est-à-dire que rien ne change dans le monde de la manifestation, dans le monde des phénomènes. Le samsara, c'est notre façon erronée d'appréhender les phénomènes. Le nirvana, c'est la façon correcte d'appréhender les phénomènes, de voir, de comprendre leur véritable nature.
Donc ça veut dire que le samsara il est là, mais...
Le nirvana aussi.
Le nirvana aussi, et c'est la façon de regarder les deux.
Eh oui. C'est bien pourquoi le samsara, la souffrance, dukkha, c'est notre esprit qui l'a construit. Mais le nirvana, c'est notre esprit qui l'établit. Donc voilà pourquoi le travail sur l'esprit... est nécessaire.
Donc c'est l'acceptation.
Mais vous ne pouvez pas ne pas accepter la présence de tel ou tel phénomène. Vous ne pouvez pas ne pas accepter. Si vous n'acceptez pas, vous êtes dans l'aversion. Acceptation ne veut pas dire l'attachement à ces phénomènes. Mais si le phénomène est là, il est lié à des conditionnements qui font qu'il est là. Il ne peut pas ne pas être. Il ne peut pas ne pas être. Après, ce qui nous appartient, c'est comment nous réagissons face à ce phénomène. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci à tous. Vous êtes nombreux maintenant à Menon.